On va lire l'histoire des cailles. La BST, après le récit de la manne, quand on marche vers la montagne, on sert des cacahuètes pour faire un exercice de bon usage. Mais ici, le peuple, il râle parce qu'il en a marre de la manne. Alors on commence par distribuer les cacahuètes et puis ensuite on incite un peu les gens à râler. Mais les groupes râlent pas assez. Je sais pas, c'est parce qu'ils sont trop fatigués ou quoi. Et on met en musique seulement les choses sublimes. Moi, je crois qu'il faudrait mettre en musique aussi des chants qui fassent râler un peu en musique, comme vous allez voir, comme on le fait ici. Le ramassis de gens qui s'étaient mêlés au peuple fut saisi de fringales. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ah, quel souvenir ! Le poisson que nous mangeions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Maintenant nous dépérissons, privés de tout, nos yeux ne voient plus que de la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'aspect du bdellium. Le peuple s'égaillait pour la récolter, puis on la broyait à la meule, on l'écrasait au pilon, on la faisait cuire dans un four pour en faire des galettes, ça avait le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne y tombait aussi. Alors qu'on prenait 8 jours, 15 jours, 3 mois, 6 mois, mais des années, 40 ans, mettez-vous un peu à leur place. Moïse entendit pleurer le peuple, chaque famille à l'entrée de sa tente. La colère de Dieu s'enflamma d'une grande ardeur et Moïse en fut affecté. Il dit à Dieu, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté que tu me dises, porte-le sur ton sein comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à ses pères? Où est-ce que je vais trouver de la viande à donner à tout ce peuple quand ils m'obsèdent de leurs larmes en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. Ah, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois plus mon malheur. Mieux pour mourir que vivre. Pas tout. Tous les prophètes, tôt ou tard, en sont venus à pousser ce cri. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Jonas, Élie. Alors ici, il y a deux récits qui s'entremêlent. Il y a Dieu qui va venir au secours de Moïse en lui donnant des aides. Et puis ensuite, il faut se méfier quand on prie parce qu'on risque d'être exaucé. Enfin, il y a des mannes qui tombent et puis le peuple s'empiffre et il reste sur le terrain. Et on appelle l'endroit pour ça Kivrot Tahava, les tombeaux de la concupiscence, comme dirait Bossuet. Alors, Dieu dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël que tu sais être des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente du rendez-vous où ils se tiendront avec toi. Je descendrai parler avec toi, mais je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. À ce peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain et vous allez en manger de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de Dieu en disant qu'il nous donnera de la viande à manger. Nous étions heureux en Égypte. Eh bien, Dieu va vous en donner de la viande à manger. Vous n'en mangerez pas un jour seulement, ou deux, ou cinq, ou dix, ou vingt, mais bien tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et vous soit en dégoût, puisque vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré en disant, pourquoi donc être sorti d'Égypte? Alors Moïse est sceptique, il dit, le peuple où je suis compte 600 000 hommes de pied, et tu dis, je leur donnerai de la viande à manger pendant tout un mois? Si l'on égorgeait pour eux petit et gros bétail, en aurait-il assez? Si l'on ramassait pour eux tous les poissons de la mer, en aurait-il assez? Dieu répondit à Moïse, le bras du Dieu serait-il trop court? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite s'accomplit ou non. Moïse sortit pour dire au peuple les paroles de Dieu. Puis il réunit 70 anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Dieu descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Et quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. Une sorte de Pentecôte avant la lettre. J'ai fait le tour du pays comme ça avec des moines démoniaques du Bec-et-Loin, au temps de Don Gramont. Et autour du Bec-et-Loin, il y a un centre de charismatique qui se développe. Et ils avaient dans leur répertoire tout de suite un chant qu'ils ont chanté là sur cette Pentecôte comme ça. Alors dans tous les groupes, c'est la même chose. Il y en a qui sont pas là quand on fait l'appel. Deux hommes étaient restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Medad. Et l'esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, voici que Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noun, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple de Dieu être prophète, Dieu leur donnant son esprit. Alors ici, c'est très intéressant cette histoire. Vous ne connaissez pas dans l'Évangile quelque chose de tout à fait semblable ?
Qui n'est pas contre
qui
moi,
pas
est,
contre
avec
moi.
Moi
est avec moi. Oui.
Il y en a qui font des miracles, ils ne sont pas du collège apostolique. Là, hein. Et alors Jésus répond, ceux qui ne sont pas contre moi sont avec moi. C'est important, on a tous à méditer sur un problème très important. Hein. On a vu que l'esprit était à l'origine de l'institution, pas de la construction du sanctuaire, de la structuration du peuple, vous rappelez bon. Mais l'esprit qui est à l'origine de l'institution ne s'est pas emprisonné dans l'institution. Et on dirait même que l'esprit, là, garde la possibilité de stimuler l'institution par des interventions imprévues à l'extérieur. Le premier qui en a fait expérience, c'est Saint-Pierre. On parlait de ces rapports entre l'institution et puis l'esprit qui est à l'origine de l'institution, et puis qu'en même temps, c'est pas emprisonné dans l'institution, et même qui a pouvoir la stimuler par des interventions imprévues à l'extérieur. Et je disais que le premier qui en a fait l'expérience, c'est Saint-Pierre, le chef de l'institution. Vous vous rappelez comment, au début des Actes des Apôtres, là, il va chez le centurion Corneille, après ce songe gastronomique étrange qu'il a eu à Jaffa lorsqu'il méditait sur la terrasse à l'heure de midi, chez le Siméon, le corroyeur, c'est ça. Oui. Et alors, il se rend à Césarée. Pour la première fois, il prêche à des païens la bonne nouvelle de l'Évangile. Et alors, pendant qu'il parle, pendant sa prédication, pendant qu'il annonce Jésus accomplissant les Écritures et tout cela, et voilà que l'Esprit tombe sur ce païen de Corneille, sur ce centurion Corneille. Et alors, Pierre, à cette réflexion, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint ? Et j'avoue que c'est un problème plus actuel que jamais. Au fond, c'est peut-être en France, vous devez le sentir, en tout cas ici, on le sent bien. Il y a l'institution, et puis il y a toute une floraison, je vais dire un grouillement, mais non, parce qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans, toute une floraison alors de gens marginaux. Quelquefois, on est un peu perplexe devant l'indigence du bagage intellectuel, devant le comportement affectif qui est souvent un peu étrange, attardé. Et puis, en même temps, on est interloqué parce qu'ils font des choses auxquelles on a renoncé. Hein. Ils récupèrent des irrécupérables, ils font des choses qu'on a renoncé à faire. On prépare la BST, tout est rangé, tout est en place. Arrive un clochard, hein. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, c'est une question que j'ai souvent posée. Est-ce que pour mieux prêcher l'évangile, il faut renoncer à le pratiquer ? C'est pas évident tout ça, l'organisation et tout le bazar. Et on est constamment aux prises avec des problèmes comme ça. Alors il faut rester attentif à ce qui nous arrive de l'extérieur comme ça. Et souvent, même si ça nous dérange là, et tout ça en restant humblement fier, j'allais dire, de tout ce patrimoine. Là, je sais pas, quand on lit l'Office des Heures le matin, relisez, prenez la table des matières, enfin de la liturgie des Heures, vous voyez tous ces gens à qui on fait connaissance tous les jours, si on est fidèle à ce que l'Église nous propose, il y a une source d'enrichissement intellectuel extraordinaire. Et puis, on peut être fier d'appartenir à cette institution, et puis en même temps, être très attentif, même s'ils sont agressifs, à ceux qui ont peut-être reçu l'esprit, et qui font avancer des choses, et qui font des choses qu'on a renoncé à faire. Voici une réflexion que je vous livre. Alors là-dessus, on revient au récit des cailles. Envoyé par Dieu, un vent se leva, qui venant de la mer entraîna des cailles et les précipita sur le camp. Il y en avait aussi loin qu'un jour de marche de part et d'autre du camp, et sur une épaisseur de 2 coudées au-dessus du sol. Le peuple fut debout tout le matin, toute la nuit et le lendemain pour ramasser des cailles. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Celui qui en ramassa le moins en eut 10 muides. Puis ils les étalèrent autour du camp. La viande était encore entre leurs dents. Elle n'était pas encore mâchée que la colère de Dieu s'enflamma contre le peuple. Et Dieu le frappa d'une très grande plaie. On donnera à ce lieu le nom de Kivrot à Tahava, car c'est là qu'on enterra les gens qui s'étaient abandonnés à leur fringale. De Kivrot à Tahava, le peuple partit pour Hatzeroth et on campa à Hatzeroth. Et voilà, vous voyez le bon usage de la création dans l'action de grâce et le partage, la manne, et puis un espèce de défoulement, la grande bouffe dans le désert. Dans le désert, au fond, la condition humaine expérimente les deux pôles entre lesquels elle évolue. Les retrouvailles avec la joie, l'action de grâce et le partage, et puis cette espèce de défoulement-là. On parlait beaucoup en France, il y a une quinzaine d'années, d'un film qui s'appelait La Grande Bouffe. Je trouve que ça avait un caractère assez édifiant, parce qu'il n'y a pas de raison. Si on abandonne complètement l'élan en vertical, là, il n'y a pas de raison que ça ne s'écroule pas et que ça sorte par tous les bouts, pas seulement par les narines. Il y a un choix à faire et un style de vie à adopter. Et s'il n'y a pas l'élan de l'action de grâce, je ne vois pas très bien comment la morale humaine peut s'équilibrer dans la joie. Alors on chemine le long d'une paroi là qu'on apercevait hier magnifiquement exposée au soleil couchant quand on descendait la montagne et qui maintenant nous fournit de l'ombre pendant cette matinée du cinquième jour. Alors on va de point d'ombre en point d'ombre et puis voilà que tout d'un coup on tombe sur une inscription grecque. Et moi je ne suis pas épigraphiste, enfin j'ai emmené des gens qui s'y connaissaient, c'est en belles lettres, là on s'y hale, on déchiffre tant bien que mal Irénée, et ça semble bien être de l'époque byzantine. Alors on peut se demander si on n'est pas sur des routes de pèlerinage.